La première,
podcast. Un jour dans l'histoire, Laurent de Hausset.
Nous sommes au XIIIe siècle, l'évêque anglais Robert Grosstête, ou Robert de Lincoln, du nom de la paroisse où il professe, proche de l'ordre des franciscains, conseille à une comtesse d'interdire les dîners et les soupers en dehors de la grande salle, en secret et dans les salles privées, car cela, précise-t-il, entraîne le déshonneur du seigneur et de sa dame. Le repas médiéval, comme beaucoup d'aspects de la vie à cette époque, est en effet une affaire collective. Fuir cette convivialité est considéré comme de l'égoïsme hautain. Une habitude qui va changer plus tard quand les plus riches vont chercher à échapper à cette norme en faisant servir des repas plus intimes de manière à flatter, récompenser ou intimider les subordonnés. Passons aujourd'hui à la table du Moyen-Âge.
Viandes en brochet, brouets et gros brochets aux pauvres qui n'ont de quoi, comme moi, Dieu, patience pour la pitance.
Un jour dans l'histoire.
Et on poursuit notre cycle de la gastronomie à travers les âges avec Pierre Leclerc. Bonjour Pierre Leclerc.
Bonjour.
Conférence bien sûr autour de ce sujet. Les dates sont à retrouver sur lepetitlancelot.be qui est votre site et puis on donnera ces dates tout à l'heure. Alors avant de passer au fourneau et de nous mettre à table, on va planter le décor. On assiste au Moyen-Âge au tournant des 10e et 11e siècles, la mise en place du régime féodal. Les ducs, les comtes s'emparent du ban. Qu'est-ce que c'est le ban ?
Le ban, c'est le pouvoir qu'ils ont de lever l'impôt, de faire la guerre, de juger. Ce ban, au départ, il est royal. Et avec ce système féodal qui se met en place, notamment après les grandes catastrophes du IXe siècle, les grandes invasions pendant lesquelles ce sont finalement les seigneurs locaux qui ont protégé la population alors que les rois en étaient parfaitement incapables. C'est à ce moment-là que ce ban va descendre la hiérarchie et va arriver jusqu'aux seigneurs locaux.
Poussée démographique également à l'époque, qui a des conséquences pour le travail des paysans.
Ah oui, ça c'est une importance absolument fondamentale, parce que la poussée démographique va relancer l'agriculture. On était dans le haut Moyen-Âge, dans une agriculture qui était un peu en berne. Mmh. Et maintenant qu'on a plus de population qui va davantage travailler la terre et qu'on a besoin de mieux nourrir cette population, on entre dans ce qu'on appelle la révolution agricole médiévale qui a lieu dans les climats tempérés, froids, c'est-à-dire chez nous.
Ouais. Alors, révolution agricole qui va prendre fin au XIVe siècle, mais qui est à la base aussi d'une extraordinaire renaissance citadine, artisanale, industrielle, commerciale, architecturale, intellectuelle, on va en reparler. Mais on voit aussi l'apparition d'une nouvelle classe sociale.
Oui. La bourgeoisie, mais la révolution agricole a permis de multiplier par deux la production en grains et de dégager un surplus qu'on n'avait pas dans la période précédente. Et ce surplus va entrer dans le commerce, va nourrir un commerce renaissant. Et donc, une nouvelle classe de commerçants va se mettre en place. Mmh. Ce sont les bourgeois. Des villes qui vont investir dans toute une série d'activités économiques et c'est toute l'économie qui est relancée.
Et notamment l'économie du luxe, c'est de la campagne qu'on va venir faire des produits de luxe ?
Alors la campagne produit évidemment d'une alimentation très raffinée, des volailles qui sont très très appréciées par les bourgeois, par l'aristocratie, du vin, du fromage, etc. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, tous les produits qui arrivent de l'Orient et notamment les épices qui viennent avec les pierres précieuses et la soie.
Et puis donc les mœurs de la table de l'aristocratie vont se polir, ils vont évoluer vers plus de courtoisie. Mais il y a également un point important, c'est l'intérêt qu'on va porter à la médecine et la diététique qui va s'intensifier et qui aura aussi des répercussions sur ce que l'on mange.
Exactement. Pendant le haut Moyen-Âge, en Europe, on avait un peu oublié cette médecine hippocratique et galéenne. Et cette médecine, par contre, avait continué à vivre et à progresser dans les pays arabes. grâce notamment à la politique culturelle menée par les califes abbassides à Bagdad. Et tout cet héritage de médecine arabe va revenir à partir du XIe siècle, va nous revenir en Europe grâce à des traductions, notamment réalisées au Mont Cassin, en Italie, des traductions en latin. C'est ainsi qu'on va redécouvrir Galien, Hippocrate, mais aussi les auteurs arabes. Et il faut bien avoir en tête que la diététique, qui fait partie de la médecine, est évidemment indissociable à l'alimentation. Et pendant des siècles et des siècles à venir, on va réfléchir l'alimentation en fonction des préceptes diététiques qui nous reviennent à partir du XIe siècle et qui vont être enseignés dans les universités qui, elles, apparaissent au XIIIe siècle.
Et les épices notamment, enfin beaucoup de produits de l'épicerie sont vendus dans les pharmacies, c'est ça ?
Exactement, les épices sont au départ des produits pharmaceutiques, comme le sont les sucreries également, comme le sera l'alcool. Et également, il y a beaucoup de produits qui passent de la pharmacie à la cuisine. Et les épices ont cette grande qualité d'être chaudes et sèches. Hein. On est dans ces principes de la diététique ancienne. Elles sont très chaudes et très sèches. Elles vont donc réparer, on va dire, les ingrédients qui sont trop humides et trop froids, donc pour rétablir cet équilibre dont on a besoin dans le corps pour se maintenir en bonne santé.
La table au Moyen-Âge, nous sommes avec Pierre Leclerc.
Où sont les poulards ? J'ai faim ! Où sont les rôts, les rôtis, les saucisses ? Où sont les fèves, les pâtés de serre ? Qu'on ripaille à plein ventre ! Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre ? Un porcelet, une chèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poivrés ! Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit !
Tous les jours, 13h30, 14h30, un jour dans l'histoire.
Voilà, vous avez peut-être reconnu ici un extrait des Visiteurs, le film de Jean-Marie Poirier, oui, voilà. À la fin du 13e siècle, le système à jachère et la culture attelée lourde connaît à son tour, Pierre Leclerc, des limites et ça provoque en fait un retour en arrière.
Exactement. Donc ce nouveau système agricole qui a permis de nourrir une population trois fois plus importante qu'auparavant, lui aussi, ce système-là va atteindre ses limites. Et là, on va arriver à une véritable catastrophe démographique au XIVe siècle. Déjà, il y a une baisse de la rentabilité du sol à cause de phénomènes géologiques un peu compliqués à expliquer ici, mais il y a une baisse de la rentabilité du sol et en même temps, on continue à augmenter la population. On entre donc dans une grave crise alimentaire avec les disettes qui reviennent, mais aussi les grandes famines, avec la population qui est beaucoup moins robuste et qui va subir de plein fouet les grandes épidémies, dont les fameuses épidémies de peste au milieu du XIVe siècle, qui vont être particulièrement ravageuse. Et au bout de toutes ces catastrophes, il va y avoir au moins, si pas plus, la moitié de la population européenne rayée de la carte, des villages entiers qui deviennent de véritables villages fantômes et les terres de friche et la forêt qui va donc reprendre du terrain alors qu'on avait passé les 11e, 12e, 13e siècle à défricher toute l'Europe. Donc tout ce travail est à refaire.
Une situation de recul, de crise qui ne va pas sans violence. Il y a des émeutes.
Exactement, il y a des émeutes dans la campagne. On connaît ces fameuses jacqueries où les paysans s'en prennent aussi. Il y a également des émeutes en ville, il y a des pogroms, donc quand tout va mal, on s'en prend aux juifs, quand tout va mal, on s'en prend aux marchands étrangers, donc les marchands représentants des villes hanséatiques vont également particulièrement en pâtir. Et il faut dire aussi que les guerres reprennent, les grandes guerres entre les rois, et cela va écraser encore plus les paysans à qui on va demander une contribution complémentaire, alors qu'ils sont déjà dans une situation particulièrement mauvaise.
Paysans qui ne pourront pas assumer les dettes et qui donc retournent à l'état de servage.
Oui, parce que dans les siècles précédents, il y a eu une certaine libération de la paysannerie, notamment dans ces grands mouvements de colonisation de nouvelles terres. Les candidats à ces colonies étaient affranchis et devenaient des paysans libres. Et cette libération des paysans, a également gagné les terres cultivées originelles. Et avec ce recul au XIVe siècle, effectivement, ce système de dette, parce que les paysans sont quand même assez bien écrasés par des taxes et des impôts assez lourds, ben, ils reviennent en servage.
La reprise va s'amorcer au début du XVe siècle dans les régions les plus fertiles, avec de nouveau une augmentation de la population. On va reconstruire, on va redéfricher. On va revenir au XIIIe siècle avec un point qui est important. Enfin, c'est l'arboriculture, donc la culture des arbres qui va se développer, et c'est sous la pression des seigneurs. Pourquoi sous la pression des seigneurs ?
Mais l'arboriculture, depuis le début, hein, de mémoire, depuis la plus haute antiquité, l'arboriculture est une culture de luxe. Les fruits qui sont produits vont trôner sur les tables des plus riches. Mais en plus, à cette période-là, on a l'arrivée du sucre en Europe. Et avec l'arrivée du sucre, qui vient du monde arabe, c'est également l'arrivée de tous les produits confectionnés à partir du sucre, les fruits confits, par exemple. Et pour l'anecdote, paraît-il, au Moyen-Âge, il était très très efficace d'offrir des fruits confits à un juge. Bon, ce n'est pas un conseil que je donne ici aux auditeurs, bien sûr, nous sommes au XIIIe siècle, mais il paraît que c'était très efficace, et c'est dire tout le prestige que pouvait avoir ce type de produit. Donc effectivement, les seigneurs, les bourgeois poussaient à l'amélioration de l'arboriculture, et notamment aussi dans l'arboriculture aux agrumes. Donc ce sont les citrons, ce sont les oranges qui arrivent pendant ces siècles-là, et les écorces de citron, les écorces d'orange confits sont des produits très 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 appréciés.
On pourra peut-être essayer les macarons qui sont tant à la mode aujourd'hui pour essayer de...
Oui, et là ça part du massepain. Ouais. Ça part du massepain, effectivement.
Alors la révolution agricole, vous l'avez dit, a multiplié la population par 3, accroissement de la productivité, essor artisanal, industriel, tout ça a des effets sur le commerce. Quels sont les principaux effets sur le commerce ?
Tout d'abord, ça a des effets sur l'artisanat. Parce que la révolution agricole médiévale demande un matériel très lourd, bien plus lourd que le système agricole de l'Antiquité. Donc on a besoin de charrons pour fabriquer des charrettes, de menuisiers, de charpentiers pour les charpentes, toute une série de métiers qui se développent dans les villages, ce qui n'était pas dans les villages auparavant. Donc il y a déjà là tout un artisanat, tout un commerce qui se met en place, qui va également gagner la ville. Et ce qui est assez important pour la ville, c'est que tous ces nouveaux métiers qui sont installés, tous les gens qui professent ces nouveaux métiers vont se mettre ensemble. Ils vont s'organiser en, on appelle ça des métiers, en confréries, c'est ce qu'on va appeler bien plus tard des corporations. Et la toute première revendication de ces corporations, c'est évidemment d'obtenir des zones de franchise par rapport aux seigneurs. Et donc les villes vont devenir des franchises urbaines dans lesquelles ces corporations de métiers vont obtenir du pouvoir, et parfois même du pouvoir politique. Et là, c'est un peu un apprentissage de la démocratie qui commence à cette période-là.
Avec aussi des prérogatives législatives et judiciaires.
Exactement. Donc ce sont les métiers qui décident de leur règlement. Évidemment, le règlement doit être contresigné par les instances supérieures, mais ce sont eux qui décident des règlements. Et lorsque quelqu'un ne respecte pas le règlement, c'est le métier qui va sanctionner.
Une révolution agricole qui profite beaucoup aussi à l'Église.
Bien sûr, l'Église est évidemment la grande puissance, et notamment grand propriétaire terrien. Et avec tout cet argent amassé, l'Église va pouvoir entrer dans une grande politique de construction. Et là, entre les 11e et 13e siècles, on va construire en France, une cinquantaine de cathédrales. Ça va être 500 grandes églises. Alors là, les églises, ça se compte par dizaines de milliers. Et également des abbayes. On connaît le fameux exemple de l'abbaye de Cluny. Si mes souvenirs sont bons, je crois 400 abbayes qui vont essaimer partout en Europe. Donc là, on a vraiment un boom architectural très impressionnant, avec notamment le développement du style gothique.
Et puis, l'enseignement également profite de cette embellie.
Bien sûr, en ville, l'enseignement déjà passe en ville. Dans un premier temps, l'enseignement, il se donne dans les monastères. À partir du XIe siècle, ce sont les écoles citadines qui ont la meilleure réputation. D'ailleurs, Liège va d'ailleurs avoir une excellente réputation au niveau de ses écoles. Et puis, à partir du XIIIe siècle, ce sont les universités. Dans les universités, on y enseigne la médecine, on l'a dit, on y enseigne bien entendu le droit, la théologie, mais également l'agriculture, l'horticulture qui entre dans cet enseignement. Et on a des personnages au XIIIe siècle comme Henley en Angleterre ou Pietro di Crescenzi en Italie qui vont publier les tout premier traité agricole, horticole de l'Occident chrétien. Et dans le cas des Italiens, d'ailleurs, ils sont très influencés par les auteurs anciens, par Caton, Varron, Columelle, Palladius, mais on les enrichit de ces nouvelles expériences qu'on a acquises grâce à cette révolution agricole.
Les Italiens qui jouent un rôle important, notamment dans le commerce, dans la distribution des produits.
Exactement. À partir du XIe siècle, ce sont les villes italiennes qui dominent le commerce en Méditerranée. Et donc, tous les produits qui arrivent dans les ports du Levant, à Alexandrie, toutes ces soieries, toutes ces épices, ces pierres précieuses, vont être distribués à travers l'Europe par ces villes-là. Et dans le nord de l'Europe, ce sont les villes hanséatiques qui prennent le relais. Et c'est d'ailleurs dans ces foires de champagne que les deux pôles vont se rencontrer.
Les Italiens, vous l'avez dit, qui sont importants également pour le commerce des épices. Hein, une folie, les épices au Moyen-Âge. Juste deux épices peut-être très très importantes. C'est quoi la noix de muscade ?
La noix de muscade est la nouvelle arrivée. Ça, c'est vraiment l'épice médiévale type parce que elle arrive, c'est entre les XIIIe, XIVe siècle qu'elle va commencer à s'imposer. Sinon, quand on observe les ouvrages de cuisine médiévaux, on s'aperçoit qu'il y a un trio de têtes absolument partout, que ce soit en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne. C'est la cannelle, le safran, le gingembre. Donc si on veut se représenter le goût médiéval, il faut déjà commencer par imaginer ou essayer dans sa cuisine de mélanger safran, cannelle, gingembre avec des mouillements plutôt acides. Ce sont les trois V, hein, comme je dis toujours, vin, verjus, vinaigre. Et là, on a déjà une bonne base du goût médiéval.
Un goût médiéval qui est aussi extrêmement hiérarchisé, on va le voir avec vous, Pierre Leclerc.
Pour faire une bonne soupe, il faut tout d'abord du pain. C'est l'affaire des boulangères. Elles sont plutôt courtisées et ce sont de bonnes commères qui ont su inventer ces dictons dont nous nous servons toujours. Gagner son pain, long comme un jour sans pain. Ôter le pain de la bouche.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Alors le régime féodal, Pierre Leclerc, s'installe, hein, les ecclésiastiques vont théoriser la structure de la société en fonction de la volonté divine et ils vont établir un système en trois ordres. Alors au sommet de ce système, il y a les oratores. Qu'est-ce que c'est ?
Ce sont les prêtres. Donc évidemment, ce sont les supérieurs, ce sont ceux qui prient pour le salut de tout le monde. Ça, c'est quand même une tâche particulièrement importante.
Et puis, il y a les bellatores.
Ah, les bellatores, ce sont ceux qui donnent leur sang, les chevaliers qui donnent leur sang pour protéger la population.
Et enfin, les laboratores.
Ah, les laboratores, ce sont ceux qui travaillent et qui vont nourrir tout le monde, c'est-à-dire à peu près 90% de la population.
On pourrait dire quoi ? Clercs, chevaliers, paysans, c'est à peu près ça. Alors, à cette théorie, il faut ajouter également la grande chaîne de lettres qui est instaurée par des penseurs du néoplatonisme. Qu'est-ce que c'est que cette chaîne de lettres ?
Eh bien, on va classer tous les êtres de la création selon un schéma vertical. Au sommet, il y a Dieu et à la base, il y a les êtres inanimés. Et tous ces êtres de la création sont classés en fonction de leur appartenance aux éléments terre, eau, air, feu, dans l'ordre hiérarchique. Donc à la base, tout ce qui appartient à la terre, ce sont les inanimés, ce sont les végétaux. Pourquoi la terre ? Parce qu'ils tirent leur nourriture de la terre. Ensuite, il y a tous les êtres qui appartiennent à l'élément de l'eau, c'est tout ce qui est aquatiques et puis tous les êtres qui appartiennent à l'élément de l'air, c'est-à-dire tous les oiseaux. Le feu, bah, ils vivent de personnages mythologiques, hein, comme le phénix ou comme la salamandre. Donc ça n'intervient pas dans le menu. Alors, il manque dans ce système, bah, il manque tous les animaux qui vivent sur Terre. Là, on est un peu embêté, on ne sait pas très bien où les classer. Ce ne sont pas des végétaux, ce ne sont pas non plus des oiseaux. Alors, on décide qu'ils sont dans une situation un peu intermédiaire entre l'air et la terre. Donc, nos bœufs, veaux, vaches, cochons, etc. sont entre la terre et l'air.
Alors, ce classement en éléments, en aliments, etc., ça a des conséquences sur des conséquences sociales. Qui va manger quoi ?
Exactement. Et à partir du XIIIe siècle, et ça, on le remarque chez Restauro d'Arezzo, on va faire la synthèse entre cette théorie de la société des trois ordres et la théorie de la chaîne de l'être. Donc, on considère que ces deux théories, voulues par Dieu, bien entendu, que selon ces deux théories, les personnages qui appartiennent à l'ordre le plus élevé vont manger tout naturellement cet aliment, cette nourriture qui appartient à l'élément le plus élevé. C'est-à-dire que les ecclésiastiques, les nobles vont tout naturellement manger des animaux à plumes parce que les plus élevés, parce que les plus proches de Dieu, les plus légers aussi, et les médecins vont emboîter le pas. Ils vont considérer que la constitution plus fragile des ecclésiastiques et des nobles a besoin d'une nourriture beaucoup plus légère. Tandis que les paysans qui travaillent la terre, qui sont en bas de l'échelle, eh bien, c'est cette nourriture qui vient de la terre qui leur convient le mieux, c'est-à-dire les végétaux qu'on considérait, un peu paradoxalement, comme beaucoup plus lourds. Mmh.
Mais est-ce que les paysans mangent quand même le produit de leur élevage, pour ceux qui élèvent des animaux ?
Alors, ça dépend. Ils vont manger une partie de leur production, mais ce qui a le plus de valeur pécuniaire, ils vont le vendre. Mmh. Donc les produits beaucoup plus luxueux, ils les vendent, soit ils les remettent à leur seigneur sous forme de contribution. Et c'est la ville, bien entendu, qui va le plus profiter des meilleurs produits de la campagne. Et ce qui est un peu paradoxal à nos yeux, c'est de voir les paysans qui vont finalement manger beaucoup moins bien que les citadins, parce que les paysans deviennent un peu les esclaves de la ville.
Alors comment mange-t-on au Moyen-Âge ? On le disait tout à l'heure, il y a cet esprit collectif, hein, bien sûr on a l'image des banquets, des grands banquets, ces banquets vont évoluer également.
Oui, exactement. Tout d'abord, il y a un grand principe au niveau du banquet déjà médiéval, mais ça va être le cas quasiment jusqu'au XIXe siècle, c'est que, bon, on divise le repas en séquences, bien entendu, en services, qu'un service comporte énormément de mets différents. Ça peut être 20, 30 mets pour un service. On parle ici évidemment de banquet princier. Mmh. 20 à 30 mets différents qu'on va aligner sur la table et on va manger ce qui se trouve devant soi. Pourquoi ce qui se trouve devant soi ? Parce que le banquet aussi est hiérarchisé. Lors d'un banquet princier, on n'a que des aristocrates et des ecclésiastiques, bien entendu, mais il y a une hiérarchie entre eux et ils y tiennent beaucoup à cette hiérarchie. Donc les mets les plus prestigieux seront ceux qui vont être servis aux personnages qui sont assis les plus près du prince. Ouais. Enfin, au prince d'abord, ouais, évidemment, et puis aux personnages assis le plus près du prince, c'est-à-dire les ecclésiastiques, et puis on va descendre dans la hiérarchie des aristocrates. Donc là, bien entendu, il faut respecter cette hiérarchie. Et puis, lorsque le service est terminé, le premier service est terminé, on enlève tous les plats de la table et on va remettre tous les plats du deuxième service et ainsi de suite jusqu'à la fin du repas qui peut compter 8-9 services.
Alors, en dehors de ces banquets, est-ce que l'on peut aller manger, comme on le fait aujourd'hui, dans un bistrot, dans un petit resto ?
Ça commence. Il y a toute une offre hôtelière qui se développe dans les villes, mais c'est normal, il y a de plus en plus de voyageurs, évidemment, avec le commerce. Il y a des étudiants avec les universités qui se développent, mais aussi, et surtout, j'ai presque envie de dire, les citadins ne disposent pas de cuisine chez eux. Et encore une fois, il va falloir attendre le 19e siècle pour qu'on commence à construire des maisons avec tout le matériel nécessaire pour cuisiner. Jusque-là, la plupart des citadins mangent dans la rue, que ce soit des petites étales ou que ce soit à l'ouvroir d'une boutique. Et là, ce sont, bien entendu, les métiers, les différents métiers et les métiers de l'alimentation qui offrent des tas de mets différents. Ça peut être des petits pâtés, ça peut être des gaufres, ça peut être des tripes, etc. Dans la rue, et là, bon, on va prendre le cas du Parisien, hein, l'ouvrier parisien mange 5-6 fois sur la journée, parce qu'il travaille du lever au coucher du soleil, mais avec beaucoup de petites pauses, en s'adressant à ces petits marchands de rue.
Et cette division des moments où l'on mange dans la journée, vous parliez de l'ouvrier, elle est valable pour les autres aussi? Il y a 5 ou 6 repas
Pour l'aristocratie et les ecclésiastiques, c'est différent. Il y a moins de prises de repas. Et puis, il va y avoir, pas encore au Moyen-Âge, ça va venir après, un décalage de plus en plus important. On sait cette différence entre les Belges et les Français avec dîner, ouais, souper. Hein, quand on voyage un peu à Paris, on ne sait plus très bien où on en est. Ça date justement, mais là on est déjà à partir du XVIe siècle, de ce décalage qu'il va y avoir de l'aristocratie qui va manger de plus en plus tard son dîner et son souper.
Le souper, c'est après le théâtre, c'est ça?
Ça, c'est ce que c'est devenu, ouais, comme cela à partir du XVIIIe siècle.
Voilà, comment mangeait-on à la table du Moyen-Âge? Vous pourrez approfondir la question avec Pierre Leclerc ce jeudi notamment, hein, à Hâte.
À Hâte, exactement.
Vous avez l'heure, Pierre, parce que je ne l'ai pas noté.
C'est à 15h, de 15 à 17.
Et l'endroit?
C'est au musée...
Musée d'Hâte.
Antique.
Au musée antique à Hâte à 14h, c'est ça?
Exactement.
Et de toute façon, on peut retrouver toutes les informations sur votre site lepetitlancelot.be et puis bien sûr sur le site, sur la page d'Un jour dans l'histoire. Merci beaucoup, Pierre Leclerc.
Merci.